Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être à l'écoute du forum du studio Kalangou par le canal de 52 radio partenaires dans tout le Niger. À Zender, vous écoutez cette émission sur les ondes de la radio Gaskia 89.5 MHz et la radio Chukura sur le 105.5 MHz. Le forum d'aujourd'hui a pour thème « Enjeux et défis de l'enseignement professionnel et technique au Niger ». Alors que le système d'enseignement général gardait les jeunes pendant longtemps sans les doter des compétences pratiques qui puissent leur permettre, une fois déscolarisés, de répondre véritablement au marché de l'emploi, le Niger adopte à partir de 2011 une réforme visant la création d'un plus grand nombre d'institutions de formation professionnelle et technique publique. Ces institutions visent l'acquisition de qualifications pratiques et connaissances spécifiques nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle afin de répondre aux besoins de l'économie. Quelle est la place de la formation professionnelle et technique dans le développement du Niger? Quels sont les défis qui entravent le bon fonctionnement du sous-secteur de l'enseignement professionnel et technique? Comment mieux exploiter les acquis de la formation professionnelle et technique au Niger? Pour discuter sur ces points, nous avons invité M. Adamou Abdoulaye, maître de conférence, directeur de l'Institut universitaire de technologie de Zender, M. Sani Gana, inspecteur régional de l'enseignement professionnel et technique de Zender, M. Mustapha Liman Tingiri, planificateur de l'éducation à la retraite, M. Bassirou Ousseini, du syndicat de la formation professionnelle et technique de Zender. Je suis Mustapha Momansani, correspondant du studio Kalangou à Zender pour l'animation de ce forum. Jusqu'en 2011, le Niger ne dispose que de 2 lycées professionnels et techniques et 7 centres de formation. Monsieur l'inspecteur, je commence par vous. Comment est le développement de la formation professionnelle et technique présentement?
Comme vous l'avez dit, en 2011, il n'y a que 2 lycées. Aujourd'hui, nous avons 13 lycées. 2 à Agadez, 2 à Difa, 1 à Dosso, 2 à Maradi, 1 à Tawa, 1 à Tillaberi, 2 à Niamey et 2 à Zender. Et en plus de ces lycées, dans le cadre de l'enseignement de la formation technique et professionnelle, vous avez des centres de formation professionnelle et technique dans toutes les régions du Niger, y compris à Kony et Filengui. Les collèges d'enseignement technique, ils sont dans chaque département, dont 15 dans la région de Zender. Au niveau des CFM, des centres de formation au métier, vous avez un dans chaque commune et dans chaque arrondissement communal du Niger. Et en plus de ces dispositifs, nous avons des centres de formation des jeunes agriculteurs. Ici, dans la région de Zender, vous l'avez à Sissia. Et il y a également le fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage, que le FAFPA, qui accompagne tous ces centres-là dans le cadre de la formation. C'est pour vous dire que l'enseignement et la formation technique et professionnelle au Niger a vraiment eu un essor ces dernières années.
Monsieur Liman, pourquoi l'institutionnalisation du sous-secteur de l'enseignement professionnel et technique?
Depuis les indépendances, cette formation, elle existe. Mais bien entendu, comme on vient de le voir, le développement a pris de l'ampleur ces dernières années, tout simplement à cause de l'augmentation importante de notre population, du manque d'emploi ou du chômage des jeunes. Sinon, dès le départ, dès l'indépendance, là, il y a l'enseignement professionnel et technique, c'est pris en compte au niveau du ministère de l'Éducation par une direction qui s'occupe donc de cela au niveau du ministère. Après, donc, ça a été transféré au niveau de l'enseignement secondaire. Et puis, à partir donc, de 2005, il y a eu la création d'un ministère en charge de la formation professionnelle et technique. Si on remonte donc à la Lausanne, donc la loi d'orientation du système éducatif nigérien, et qui date de 1998 et qui régit le secteur de l'éducation, donc nous avons au niveau de l'article 25 la définition de la mission de l'enseignement professionnel et technique. L'enseignement professionnel et technique a pour but de fournir donc un personnel capable d'appliquer les connaissances professionnelles et techniques en vue de développer l'agriculture, l'élevage, l'artisanat, l'industrie, le commerce et l'économie, d'assurer la formation continue des professionnels et de préparer les jeunes à la vie active.
Qu'est-ce qui différencie la formation professionnelle de la formation continue?
Donc la formation professionnelle, c'est l'acquisition donc de connaissances et de compétences en vue donc d'exercer un métier. Et au niveau donc de l'enseignement professionnel, hein, c'est totalement donc pris en charge et c'est à différents niveaux. L'enseignement professionnel et technique, c'est à tous les échelons, du primaire jusqu'au niveau du supérieur. Et il forme donc un capital humain, des ouvriers, des techniciens, des ingénieurs, donc c'est à tous les niveaux. Maintenant, pour la formation continue, donc c'est des gens déjà qui sont formés, qui sont en train de travailler, qui peuvent revenir donc à l'école pour un complément donc de formation, un recyclage, un perfectionnement. Si on veut progresser donc dans son secteur, ou s'il y a de nouvelles techniques ou autres là qui sont apparues et on veut donc, donc rafraîchir les connaissances d'autres compétences, donc là on vient aussi au niveau.
Monsieur Bassirou, vous êtes le secrétaire général du SINAEP, coordinateur aussi du concept. Peut-on dire que l'enseignement professionnel et technique a véritablement décollé de nos jours?
L'enseignement professionnel a véritablement décollé. C'est quand on regarde le résultat que ça donne de nos jours, vous allez voir presque dans toutes les usines, les travailleurs qui y sont ont été formés au niveau de l'enseignement professionnel et technique. Vous allez voir également des micro-entreprises qui sont dirigées par des formateurs qui ont été formés au niveau également de l'enseignement professionnel. Vous allez voir des maîtres d'atelier, des chefs d'atelier. Un peu partout dans la ville, vous allez les rencontrer. Ils sont issus, n'est-ce pas, de la résultante de ces formations professionnelles. Quand vous regardez, par exemple, la société Satom, la plupart des topographes qui travaillent là-bas sont issus de l'enseignement professionnel. Donc, vraiment, je pense que l'enseignement professionnel au Niger a répondu et à l'attente.
Professeur, pensez-vous que les disciplines enseignées sont susceptibles de répondre aux objectifs?
C'est un secteur, comme il l'a dit, où le dispositif est là, bien étoffé, avec un référentiel des métiers et aussi les instances qui fonctionnent. Les disciplines sont diversifiées de plus en plus. Il y a des disciplines que les gens pensent qu'ils sont saturées, qu'il ne faut plus, il n'y a pas sous le contrôle du directeur. Et on avait la dernière fois incriminé la formation en économie familiale, en ceci, cela. Voilà. Et les curricula sont discutés. Donc, ça s'est diversifié parce que les besoins du marché du travail font qu'on intègre de nouvelles disciplines. Nous, au niveau des UIT, ce que nous faisons, avant de créer une filière, on va voir les professionnels, on les invite à l'élaboration du curricula et c'est en ce moment que nous créons la filière. Chaque année, on fait un diagnostic au niveau des partenaires qui reçoivent nos étudiants, nos produits, ou bien qui nous disent voilà leurs besoins. C'est en fonction de ça que nous créons les filières. Dans les écoles au niveau lycée et secondaire, je pense que c'est la même chose parce que moi j'ai participé à deux grandes rencontres à Niamey où les gens ont interpellé pour dire qu'il y a des filières qui sont saturées, qui n'apportent plus de travail aux enfants. Il faut donc changer et mettre à jour. Je voudrais également parler un peu du rôle de l'enseignement technique, même s'il l'a dit. Il faut que les Nigériens comprennent que ce n'est pas un débarras, ce n'est pas un réceptacle de tout. C'est aussi un enseignement, comme il a dit, qui devait favoriser l'entrepreneuriat, c'est-à-dire l'auto-emploi, comme il a dit, l'innovation. Il faut que cet enseignement-là permette d'innover. Parce que souvent, on demande aux universitaires, ceux qui ont fait géographie, d'innover. Non, l'innovation, c'est surtout au niveau de l'enseignement technique. Et ça permet aussi de former bien la main de demain, ceux qui vont... C'est la main du pays, c'est-à-dire que c'est des gens qui vont travailler. La main d'œuvre, il faut que ça soit de qualité. Parce que moi, je reçois souvent des produits des lycées. Voilà. Et je sais le problème que je rencontre avec ces gens.
Monsieur l'inspecteur, qui bénéficie de la formation professionnelle et technique?
Mais moi, je dirais que tout le monde en bénéficie. Hein. Toutes les couches sociales bénéficient de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. On a pris l'enseignement professionnel comme étant quelque chose qui est à part. En réalité, nous le vivons tous les jours. Avant qu'on ait, comme l'a dit le frère Tengri, que nous ayons la direction même de la formation professionnelle, nous avons toujours des mécaniciens qui ont leur garage. Nous avons toujours des électriciens. Nous avons toujours des organisateurs. Nous avons toujours des ingénieurs. Donc, ça ne date pas d'aujourd'hui. Maintenant, le nouveau dispositif qui a été mis en place, c'est pour que toutes les couches sociales y bénéficient. Quand vous prenez les CFM, les centres de formation au métier, ils accueillent les non-scolarisés et les déscolarisés. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'aller à l'école aujourd'hui pour être formé. Si vous prenez les CET, les collèges d'enseignement technique, ils accueillent les post-CM2. Donc ceux qui ont fait le CM2 au niveau des établissements primaires ont le choix d'aller d'abord au niveau des collèges d'enseignement général, mais aussi au niveau des collèges d'enseignement technique. Et à la fin, chaque collège émet un diplôme. Le CEG émet un BPC, le CET émet un CAP, Ce sont ces deux diplômes-là qui se retrouvent au niveau des lycées pour poursuivre leurs études. Ou alors au niveau des CPT, les centres de formation professionnelle et technique, accueillent également les postes BPC et les postes CAP. Vous voyez que tout un chacun, qu'on soit à l'école ou non, eh bien, on bénéficie, on peut aller avoir cette formation-là. Et même si on n'arrive pas à accéder au centre de formation au métier, vous avez le fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage qui le fait pas. Vous pouvez aller déposer votre dossier, puisque eux, ils font des formations de courte durée, de 2 semaines, 1 mois, 2 mois, vous pouvez être formé.
Ceux voilà. qui rentrent là sans pour autant avoir une base scolaire, est-ce qu'ils arrivent à aller loin?
La formation professionnelle, on n'a pas besoin d'aller loin. Vous pouvez aller loin pour être ingénieur, mais au lieu de rester sans avoir un métier, vous apprenez au moins un métier. Et c'est ça l'objectif que l'État a visé. C'est de faire en sorte que tout enfant qui atteint un certain âge ait au moins un métier, qu'il puisse se prendre en charge, aider sa famille, et ça résout les problèmes sociaux d'un pays.
Alors, que pensez-vous du programme et des matières enseignées? Tout à l'heure, le professeur a parlé de la révision du curricula et puis de l'assurance qualité.
Alors, vous savez, il y a les matières et il y a les filières. Tout à l'heure, il a parlé de l'économie familiale. Aujourd'hui, dans les 63 CFM que nous avons ici dans la région de Zander, il y a au moins 58 qui ne font qu'économie familiale. Et depuis la création, ils font économie familiale. Et en général, cette économie familiale-là ne forme que des tailleurs. Puisque dans chaque commune, vous avez un CFM. Normalement, de nos jours, on doit avoir un tailleur dans chaque famille. Alors, si on a un tailleur dans chaque famille, les autres tailleurs, qu'est-ce qu'ils vont gagner? Donc, c'est le cas qu'il avait soulevé. Les matières n'ont pas de problème. Ceux qui ont des problèmes, ce sont les métiers conformément aux zones. Donc, aujourd'hui, nous avons passé des années en train de former l'économie familiale. Nous sommes dit, il faut arrêter, puisque l'économie familiale, finalement, n'est plus un métier. Il fallait maintenant scinder. Nous avons scindé l'économie familiale en couture, en cuisine, restauration et en transformation agroalimentaire. Pourquoi? C'est parce que celui qui n'a pas été à l'école, quand il fait 2 ans, on lui a appris à transformer le mil, le sorgho, le riz pendant 2 ans. Si effectivement il a fait cette formation-là, eh bien, il doit pouvoir se débrouiller. Si c'est la couture, si après 2 ans, on vous apprend à faire la couture, normalement, vous devrez sortir couturier. Et si vous êtes couturier, vous n'avez pas besoin d'attendre l'État. Il suffit de chercher tout simplement la machine, d'aller même si c'est sous le nîmes de votre maison, devant la maison, et commencer à coudre. Aujourd'hui, on les voit en train de se promener dans la rue, les tailleurs, alors qu'ils n'ont pas été formés. Donc, l'objectif fondamental de la formation professionnelle aujourd'hui au Niger, c'est juste la qualification. Maintenant, l'autre point que j'aimerais un peu ajouter, que le professeur n'a pas soulevé, c'est effectivement nos élèves des lycées qui n'arrivent pas à poursuivre leurs études à l'université. Là, c'est le curricula qu'il faut revoir. La méthode de sélection au niveau des universités et des instituts se base sur des matières d'enseignement général. Or, nous, nos élèves au niveau des lycées négligent ces matières-là. Ils s'accrochent tout simplement aux pratiques. Voilà leur difficulté. Donc, c'est de revoir un peu au niveau de la formation, au niveau de ces centres-là, ou de ces lycées de la formation professionnelle, comment renforcer les matières d'enseignement général. Et là, je profite pour attirer l'attention des parents et des élèves que quand on est au lycée, on doit savoir qu'on est au lycée. Les lycées, ce ne sont pas seulement les TP, ce sont des études supérieures après. Et les études supérieures après, d'abord, il faut maîtriser la langue, que ce soit le français ou l'anglais. Et deuxièmement, il faut maîtriser les matières techniques. Ce sont les mathématiques, ce sont les sciences physiques et autres.
Monsieur Liman, quels sont les avantages de ce type d'enseignement pour les jeunes?
La première chose, c'est pour déjà qu'il y ait un personnel qualifié qui est formé pour pouvoir intégrer le marché du travail, hein, avoir des ressources humaines qualifiées. C'est ça l'objectif principal. À côté, il y a d'autres que le professeur a évoqués. Par exemple, l'innovation, la modernisation. Tout à l'heure, en parlant par exemple des tailleurs, vous savez qu'ils utilisent donc des machines avec la main ou la pédale, alors que la technique aujourd'hui a évolué. On n'a vraiment pas besoin de tout ça là. Donc, pour être compétitif, si on avait par exemple des chemises là, des prêt-à-porter, maintenant on le fait même ici chez nous. Mais on est inondé par exemple par des couturiers du Nigeria et autres. S'il faut faire là, ça là, c'est avec vraiment des machines modernes et qui existent. Donc, on n'a pas à utiliser toujours ces machines à pédales-là. Donc, vous voyez, donc quand on a un personnel qualifié là, on va vers la compétitivité, vers la production à grande échelle. Et en ce moment, on a besoin donc de modernisation. Et comme on vient tout à l'heure de le dire, hein, donc la formation professionnelle, c'est pas seulement le ministère. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'autres ministères qui sont associés. Normalement, eux, ils ont un droit de regard sur toute formation. Ils peuvent envoyer leur inspecteurs et autres là à contrôler, voir. Et normalement, c'est eux qui doivent tout coordonner. C'est eux qui définissent donc la politique donc, du secteur de la formation. Maintenant, ce qu'on voudrait, et je suis d'accord avec le professeur, donc là, il faut aller donc vers la qualité. Et là, c'est au ministère justement donc de veiller donc, je pense donc à cela. Donc l'avantage, c'est non seulement avoir donc des personnels qualifiés, et je veux dire, hein, c'est à tous les niveaux. C'est pas seulement au niveau supérieur. On a besoin donc, je l'ai dit tout à l'heure, d'ouvriers, de techniciens, d'ingénieurs. Et maintenant, on peut maintenant faire toute sa carrière au niveau de la formation professionnelle, sans même aller au niveau. Donc, il y a toujours une correspondance entre l'enseignement général et l'enseignement professionnel et technique. Comme il a dit, donc, il y a le CAP là qui correspond donc au brevet, il y a le BEP là, qui est à peu près comme le bac là, il y a le BTS là, c'est bac plus 2, ainsi de suite. Donc, on peut même aujourd'hui là commencer bas et c'est même mieux. Parce que déjà au niveau donc du primaire, là, le CFM et autres, là, vous voyez, à partir de 15 ans, là, vous pouvez être actif, vous pouvez progresser et après, comme on l'a dit tout à l'heure, là, rejoindre l'école, progresser, etc. Vous pouvez faire toute votre carrière et quand vous le faites au niveau simplement de la formation professionnelle dans les écoles appropriées, là, vous devenez un ingénieur donc très expérimenté, qualifié. Hein, c'est pas après avoir fait votre bac série D ou autre qu'il faut rejoindre, bifurquer, là, aller de l'autre côté. En ce moment, vous ne connaissez pas beaucoup de choses. C'est vrai, comme on l'a dit, le développement est récent. Bon, on n'a pas vu l'importance peut-être au départ, hein, mais comme on l'a dit, ça a toujours existé, hein, ça existe. Mais seulement maintenant, on a compris qu'il y a beaucoup de chômage donc de jeunes, il y a un sous-emploi, et c'est pourquoi maintenant on privilégie ça. L'État ne peut pas tout faire, donc hein, il faut les bailleurs de fonds. Il faut le privé, il faut le partenariat public-privé. Et c'est pour ça, là, donc, maintenant, on voit l'importance, donc, de la formation professionnelle. Et l'enseignement général, c'est quoi? Au début, c'est simplement, on voulait, donc, des commis de l'État, là. On sait lire français et autres, là. Et là, vous obtenez un travail. Et un travail, généralement, donc, de bureau. Et maintenant, vraiment, pour gagner sa vie, on n'a pas besoin d'un travail de bureau. D'ailleurs, le secteur est saturé et on ne trouve pas l'emploi. Donc, l'emploi, là, maintenant, c'est la réalité, c'est le concret. Si vous apprenez, vous pouvez vous-même fonder votre entreprise, même si c'est familial, même si c'est un à deux, ou bien collaborer entre vous. Donc, c'est vraiment le secteur d'avenir. Et même au niveau de la formation professionnelle, moi, je veux dire, ça ne sert à rien d'avoir des diplômes. C'est pas les diplômes qu'on veut, hein. Même au niveau de la formation professionnelle, moi, je pense qu'il y a des secteurs là où il faut arrêter maintenant, donc, les formations. Il faut voir quelles sont les filières où les gens peuvent vraiment gagner leur vie, quoi. C'est vers ça, je pense, qu'il faut aller. Et il y a assez d'atouts. Et maintenant, c'est au ministère vraiment de coordonner ça. Vous voyez, on a eu deux plans seulement au niveau de l'éducation au Niger. Donc, le PDDE est là, 2002-2012. Après, on a eu le programme sectoriel de l'éducation et de la formation. Là, c'est vraiment un bon programme de 10 ans. Ça a pris fin, donc, maintenant, ça a pris fin en 2024 là, et là il y a une vision globale, il y a la formation professionnelle, donc là on voit les filières, comment progresser, quelles sont les passerelles, etc. Là c'est une bonne vision, et là c'est le ministère seulement qui peut coordonner ça, alors qu'il y a beaucoup de ministères qui font donc la formation au Niger. Il y a au moins une quinzaine de ministères là qui ont des écoles ou autres de formation, mais il n'y a pas une bonne coordination, et la coordination doit appartenir au ministère de l'enseignement professionnel. Et de toute façon maintenant, même s'il n'y a pas de ministère, même s'il y a un seul ministère, moi je ne vois pas d'inconvénient, hein, ou deux ministères. Donc, il y a le supérieur. C'est même plus facile peut-être donc de gérer en ce moment. Ce n'est pas un problème.
Professeur Abdoulaye, dans les universités publiques du Niger, on dispense cet enseignement. Quelles sont les filières d'avenir selon vous?
Il a parlé des filières porteuses que nos ministères ont définies. Par exemple, quand on prend au niveau de l'université de Zender, l'université de Zender était créée à partir de l'UIT. Et l'UIT, c'est tout ce qui concerne les métiers du territoire. On a créé l'aménagement du territoire et l'urbanisme. C'était pour accompagner les nouvelles communes qui venaient d'être mises en place et les conseils régionaux, pour les étoffer en personnel. On a créé un stand de direction, c'était pour accompagner les petites et moyennes entreprises, parce qu'en ce moment, c'était au temps de Tanja, on voulait créer des petites et moyennes entreprises. On a créé topographie. Tous les métiers du territoire ont été basés au niveau de l'université André Salifou. Et les UIT ont été créés sur la base de ces filières porteuses-là. Sauf que au niveau de la création, comme il l'a dit, c'est-à-dire on n'est pas parti regarder ce que les gens sont en train de former au lycée pour créer les UIT. Ce qui fait qu'il y a des gens qui étaient formés dans les lycées, dans des centres de formation, qui n'arrivaient pas à se retrouver dans les UIT. Et donc, les filières porteuses sont définies par le ministère. Nous, on est autour des métiers du territoire à Zender. Tout ce qui concerne le tertiaire, c'est Tawa. Tout ce qui concerne
L'agriculture, c'est Tilaberi. Génie civil et Maradi. Agadez, c'est tout ce qui concerne les énergies renouvelables, les énergies fossiles. Donc, c'est autour de ça qu'on essaye de renforcer et on crée des universités après. Le processus a été brusqué, mais c'était ça. L'État a déjà ses filières porteuses. Sauf que je disais, il y avait un hiatus entre la création des UIT. On n'avait pas regardé en bas qu'est-ce que les autres, eux, ils formaient pour que les UIT puissent les recevoir. Et au niveau sous-régional aussi, on a défini des filières porteuses avec le référentiel des métiers. Dans les universités nigériennes, on n'était pas habitué à avoir des ingénieurs enseignants à l'université, des enseignants technologues. Donc, on avait eu beaucoup de problèmes à gérer sur ces questions-là.
Monsieur l'inspecteur, quelles sont selon vous les filières professionnelles porteuses?
Les filières porteuses sont définies par la politique du gouvernement. Il l'a bien expliqué au niveau supérieur. Nous, à notre niveau, si vous prenez le cas des CFM, les centres de formation au métier, qui se trouve au niveau des communes. Il y a un comité de gestion qui doit être mis en place, qui doit rencontrer la communauté locale pour voir quelle est la filière porteuse pour la commune. Les communes ont besoin, par exemple, n'ont pas de menuisier ou n'ont pas d'électricien. Eh bien, la commune décide de dire, bon, il nous faut vous nous ouvrez une filière électricité ou menuiserie bois. Mais après les 2 ans de CFM, il n'y a pas de passerelle. Eh bien, c'est la fin du parcours. Ils sont là, ils restent et ils travaillent pour la commune. Par contre, au niveau des CET, les CET se trouvent dans les départements. Eux aussi, les filières ont été définies en fonction des besoins de l'État, cette fois-ci. Parce qu'un CET, c'est un collège. Après un collège, on va au lycée. Après le lycée, on va à l'université. Donc, eux, ils suivent le même cursus.
Partout au Niger.
Partout au Niger. Maintenant, les partenaires, quand ils viennent, parce que les partenaires font également des formations de courte durée. Eux, ils nous saisissent pour nous dire quelles sont les filières porteuses. Et là, il y a un diagnostic qui a été déjà fait, puisque eux, ils ont des zones d'intervention. Ils vont intervenir dans telle commune, telle commune, telle commune. Nous rencontrons la communauté locale pour lui demander quelles sont les filières porteuses pour votre commune. En ce moment, on transmet aux partenaires techniques et financiers. Et on lui dit, bon voilà, si vous voulez faire une formation, la meilleure façon de le faire, c'est de prendre tel métier.
Alors, est-ce que le Niger dispose des cadres compétents pour ce type de formation?
Mais bien sûr, à tous les niveaux d'ailleurs. Et je pense que le collègue syndicaliste l'a dit, vous avez à tous les niveaux, vous voyez que ceux qui travaillent sur le terrain, ce sont des formés. Et ils font bien leur travail, ça veut dire qu'ils ont été bien formés. Et donc, ceux qui les ont formés ont été également bien formés. Donc, nous n'avons pas de problème de formateurs à ce niveau.
Monsieur Bassirou, quels sont les obstacles au bon fonctionnement de ce sous-secteur?
Docteur et inspecteur ont à le souligner, c'est le problème de continuité de nos étudiants sortis des différents lycées professionnels. Aussi, quand tout à l'heure on a parlé des filières de l'économie familiale, mais eux, si vous regardez, ils sont même limités au BEP, je pense bien. Il n'y a même pas possibilité de faire le bac. Et nulle part, il n'y a pas un centre qui les reçoit pour continuer et approfondir les études en économie familiale. Aussi, il y a les problèmes des cadres et le personnel aussi, il est limité. Sans oublier aussi les problèmes de rémunération des contractuels à temps, parce que tant que les enseignants ne sont pas dans des conditions de travail, vraiment il y a obstacle.
Certains pensent ironiquement que vos élèves sont des rejetons de l'enseignement en général. Est-ce qu'il relève véritablement le défi?
Tout à fait. Parce que si vous regardez dans la vie active, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de chefs d'atelier, tout à l'heure je l'ai souligné, ou des maîtres d'entreprises, des entreprises qui ont été formés dans les centres de formation professionnelle. Sinon, tous ceux qui sont venus du collège, une fois dans les centres de formation professionnelle, ils apprennent, ils sont formés et ils continuent, soit dans des études, soit ils font leur propre entreprise.
D'accord, monsieur l'inspecteur, est-ce que les jeunes sont attirés par la formation professionnelle?
Je répondrai par oui, puisque mon nombre de ces acteurs qui sont là l'ont dit. Nous remarquons aujourd'hui qu'il y a un engouement des jeunes vers la formation professionnelle. Mais le problème qui se pose, c'est au niveau des autres acteurs. Je parle des parents et des enseignants, surtout des enseignants qui ne sont pas de la formation professionnelle. Au niveau du primaire, ils pensent que les collèges d'enseignement technique doivent appartenir aux élèves faibles. Ils ne savent pas que ces élèves qui vont au CET vont avoir un diplôme après 4 ans équivalent à ceux-là qui vont faire le CEG. Les parents, il y a beaucoup de parents qui sont venus me dire que leur élève est admis à l'écrit au BPC, ils veulent qu'il fasse le lycée. Ils ne veulent pas qu'il fasse le CES et ils ne veulent pas qu'il fasse les écoles professionnelles parce qu'il est également très brillant. Donc, c'est pour dire qu'il y a un problème de sensibilisation en ce qui concerne la formation professionnelle. Sinon, aujourd'hui, nos établissements sont bondés, surtout dans les centres urbains. Allez voir au niveau du LPANA. allez voir au CFPT de Zander, allez voir au niveau du LPZ et allez surtout rencontrer. Nous sommes à la veille de la rentrée. Prenez contact avec les chefs d'établissement. Ils vont vous dire combien de fois ils sont bousculés par les parents, par certains parents et surtout par les élèves pour qu'ils changent d'orientation. Et je pense qu'au niveau de l'enseignement secondaire, ils ont trouvé la formule pour éviter d'ailleurs cela. Ils font deux orientations. Les élèves qui sont orientés post-BPC dans les centres de formation professionnelle et technique sont également orientés dans les lycées. Et on donne le choix à l'enfant pour éviter vraiment ces perturbations.
Est-ce qu'il y a une bonne répartition des offres de formation à travers le Niger?
Je l'avais dit tout à l'heure, c'est que dans toutes les communes, vous avez des CFM. Dans tous les départements, vous avez des CET. Dans toutes les régions, vous avez des CFPT. Et nous avons 13 lycées. Et après les lycées, nous avons des UIT, nous avons des universités où nos élèves peuvent aller après le bac. Je pense que les offres de formation au niveau, sur le plan national, ne se posent pas.
Docteur, quels sont les cycles de formation professionnelle et technique? Est-ce que nos instituts universitaires de technologie sortent chaque année beaucoup d'ingénieurs?
Au niveau des instituts logés dans les universités, nous avons le DUT, le diplôme universitaire de technologie, que l'étudiant obtient en 2 ans. C'est l'équivalent un peu du BTS. Après ça, nous avons la licence professionnelle. Là, c'est après le DUT, vous faites 1 an, vous sortez avec votre licence professionnelle qui va vous permettre de continuer vos études en ce qu'on appelle aujourd'hui master ou en ingénierie. Sauf que les UIT sont bloquées dans les universités publiques. On ne leur permet pas de créer des programmes de master ou bien d'ingénieur. Alors que les UIT, par exemple l'UIT de Zender, nous avons des maîtres de conférences. Nous avons des maîtres assistants, des assistants docteurs et des ingénieurs dans tous les domaines.
L'offensive revient à qui? À vous, non?
Cette année, nous avons fait un programme de master parce que nos étudiants partent au Burkina dans des écoles qui ne veulent pas mieux que nos UIT. Mais nous, on est bloqué au sein des universités. Mais l'EMIG, qui est un peu autonome, a le droit de faire l'ingénierie. Donc, ça nous pose problème. C'est paradoxal. Et le blocage se fait au sein des universités publiques. Et c'est pourquoi, si vous vous rappelez, on avait transformé l'UIT de Maradi en école polytechnique. C'était pour leur permettre de faire l'ingénierie. Alors que nous, on a plus d'enseignants gradés au niveau de l'UIT que l'UIT de Maradi. Mais bon, ils ont fait leur offensive, ils ont obtenu ça. Mais ce n'est pas une raison, c'est l'État. Notre UIT a été créé en même temps que Maradi, Tawa. Et aujourd'hui, nous avons des étudiants qui vont rentrer chez nous, qui veulent aller faire l'ingénierie, mais qui n'ont pas la possibilité. Ils sont obligés de quitter Zender. Actuellement, j'ai un curriculum, un programme, syllabus, qu'on avait envoyé au rectorat pour validation. Nous devons créer ce master-là. Et je retiens que dans toute la sous-région, sur les métiers du territoire, c'est l'université de Zender seulement qui forme de la première année avec le complément du département de géographie, jusqu'en master. Les autres n'ont pas la première année comme ce que nous faisons en première année à l'UIT, deuxième année, troisième année dans les métiers du territoire. Dans l'espace IEMO, il n'y en a pas. Nous sommes la référence. Et demain, on va créer des pôles en termes d'aménagement du territoire, d'urbanisme. Et on va bloquer l'UIT. Et Zender ne sera pas ce pôle au niveau régional. C'est-à-dire que les Maliens vont venir apprendre les métiers du territoire au Niger.
Monsieur Bassirou, quelle est la situation du personnel de l'enseignement professionnel au Niger?
Dans beaucoup de nos centres, on n'a pas un personnel adapté. Aussi, le personnel est limité. Tout à l'heure, je l'ai dit, nous avons le problème des cadres. Il va falloir recruter et des cadres, mais aussi les personnels enseignants.
Quels sont les principaux défis auxquels l'enseignement professionnel et technique fait face?
Par exemple, il y a un manque de formation à leadership, manque de formation sur les plans d'action et consorts. Ouais, tout ça, là, c'est des défis à relever.
Est-ce que les jeunes qui sont formés chez vous trouvent facilement du travail?
Je réponds également par oui, parce qu'ils sont déjà formés. Dès qu'ils sortent, ils ont un métier, ils peuvent eux-mêmes aller pratiquer dans la vie courante. Mais aussi, il ne faut pas oublier la présence des papas qui leur donnent une autre chance d'une autre seconde formation. Et papa les dote des kits pour continuer à servir la vie professionnelle.
Monsieur l'inspecteur, est-ce que les jeunes formés reçoivent de l'accompagnement technique et matériel?
Vous avez posé tout à l'heure une question en ce qui concerne ces jeunes-là après leur formation. Effectivement, c'est un grand défi. L'État a mis en place des plateformes d'orientation et d'insertion professionnelle qui sont là dans certaines communes du Niger et qui ont pour rôle d'accueillir ces jeunes sortants, c'est-à-dire ces jeunes formés pour les orienter vers l'insertion ou l'entrepreneuriat ou l'auto-insertion, ou alors des jeunes non formés pour les orienter vers les centres où ils doivent être formés. Et malheureusement, ces plateformes-là sont très mal fréquentées. Donc ça, c'est le dispositif d'accompagnement technique qui a été mis par l'État. Maintenant, en ce qui concerne les matériels, à la fin de la formation, au niveau de l'État, il n'y a pas de matériels qui sont mis à la disposition pour l'instant. Mais c'était vers les années 2020 où, sous le soutien de certains partenaires techniques et financiers, il y a des sortants qui ont bénéficié des kits, comme l'a dit le syndicaliste. Et malheureusement, ces kits-là ont disparu après. Ça veut dire qu'il faut, quand on accompagne le sortant, il faut qu'il y ait un suivi, merci, évaluation après. Et c'est ça qui a manqué. Il n'y a pas eu de suivi. Et nous sommes en train de voir dans quelle mesure les partenaires qui vont venir nous aider pour mettre des kits à la disposition de nos sortants, nous allons prendre des dispositions pour qu'il y ait un suivi de ces sortants-là. Troisième point, c'est l'entrepreneuriat. Ces sortants, une fois formés, doivent se regrouper pour créer une entreprise. Et cette entreprise, il suffit qu'il aille voir le FAPA, le Fonds d'appui à la formation professionnelle et l'apprentissage. C'est un fonds qui est là et qui est prêt à accompagner des jeunes. Il est là uniquement pour les jeunes qui ont été formés. En plus, les jeunes qui n'ont pas été formés peuvent également déposer leur dossier pour qu'ils soient formés. Donc vraiment, le dispositif est là. Il faut que les parents comprennent que cette formation-là devrait normalement être payée. Et c'est une chance que l'État l'a faite gratuitement. Maintenant, à eux de prendre la relève. Une fois que l'enfant est formé, qu'il fasse un effort, même si l'État ne lui a pas donné un kit. Imaginez un mécanicien. Qu'est-ce que ça coûte à un parent de payer quelques clés à son enfant et qu'il aille dans un garage bricolé? À la fin de la journée, il aura au moins 500 francs. Ça permettra aux parents de ne pas lui donner quelque chose. Au moins, il s'est pris en charge. Maintenant, en ce qui concerne ceux qui, après le BPC, ont fait 2 ans, ils sortent avec un BEP, un brevet d'études professionnelles, qui lui aussi n'a pas de passerelle. L'État vous reverse de la vie active. Vous avez fait le BPC, vous avez eu 2 ans de formation en électricité. Mais cherchez votre tournevis et puis vous pouvez servir en attendant maintenant d'autres occasions. Mais j'attire l'attention aussi de nos entrepreneurs. Ils doivent accompagner l'État. Bon nombre d'entreprises préfèrent embaucher ceux de l'extérieur alors que nos enfants sont là, ils sont formés. Ça, c'est l'autre flèche. La deuxième flèche, je comprends aussi les entreprises parce que nos jeunes formés, quand vous avez une formation, il faut d'abord montrer à l'entrepreneur que vous avez les compétences requises. Vous ne pouvez pas tout d'un coup imposer un prix.
Maintenant, la dernière question, une question pour tous les invités. Je vais commencer par M. Liman. Comment faire en sorte que l'enseignement professionnel et technique contribue efficacement au développement du Niger?
Si avant de répondre à cette dernière question adressée à tout le monde, j'aimerais revenir quand même sur les obstacles ou quelques difficultés que vous avez signalées en tant que parent d'élève et aussi en tant que ancien fonctionnaire, donc, qui a participé justement à l'orientation. Il y a quand même quelques problèmes qui se posent. Il l'a dit tout à l'heure qu'il y a insuffisance de personnel. Et là, je suis d'accord, c'est au niveau de tous les secteurs donc, de l'enseignement, ou même d'enseignants vraiment qualifiés. Et au niveau de l'enseignement professionnel, là, les diplômes sont très variés et quelquefois, je pense, même pas appropriés. Tout comme au niveau de l'enseignement général. Hein, si vous allez, ceux qui enseignent mathématiques là, dans nos collèges et lycées, là, vous allez trouver 50 diplômes, même SVT, etc. Donc vous voyez, ce n'est pas approprié. D'ailleurs, il y a 2 filières où je vais signaler donc, cela. On envoie des enfants, par exemple, qui font la formation artistique et culturelle au niveau de la MJC. Il y a d'autres qui sont au niveau donc, de la REN, là, pour la jeunesse et sport centre de jeunes. Et ils ont même, à certains moments, ils n'arrivent pas à payer donc, les enseignants contractuels qu'on leur envoie. Et ils n'ont vraiment pas de professionnel. Et je ne sais même pas d'ailleurs si la formation continue à ce niveau. Et je suis sûr que c'est par manque donc, d'enseignants et de personnel. Et je pense aussi qu'il y a des problèmes donc, là, au niveau du PDR. Là, donc, on parle de matière d'œuvre là. Hein, parce qu'il leur faut du matériel pour travailler. Et donc, s'il y a rupture ou il y a manque, c'est aussi un problème. Et je pense, en tant que parent d'élève aussi, il y a les problèmes donc, de stage. Dans toutes ces formations-là, on doit envoyer à certains moments les enfants donc faire 2 mois ou 3 mois, je ne sais pas, de stage, y compris, je pense, à l'université. Et vraiment, à ce niveau, moi, je trouve aussi qu'il y a des difficultés. On doit connaître les entreprises sur place. Et je pense c'est aux écoles directement donc, d'envoyer. On peut passer par l'administration, par exemple, ici, c'est le gouvernorat ou autre, là, pour qu'on puisse placer cela. Quelquefois, les enfants sont laissés à eux, même c'est à eux de chercher les trucs de stage. Et quand ils vont ailleurs, on refuse cela. Moi, je trouve que ce n'est pas intéressant. J'avais un élève là qui a fait le lycée professionnel Amitié Niger-Algérie, là. Elle a fait l'électricité. Elle était chez moi, donc. Et elle voulait aller à la Nigelec, là, pour la période de stage. Et quand je suis allé là-bas, on me dit que non, c'est pas ici. Il faut d'abord s'adresser à Niamey. C'est Niamey qui va autoriser, on me dit, le stage. C'est pas ici. Alors qu'il y a une direction de la Nigelec ici. Et donc, vous voyez, c'est déjà compliqué. Et on m'explique que finalement, d'ailleurs, si vous ne connaissez pas quelqu'un, vous savez, donc là, ça ne sert même à rien de faire la demande et autres là. Et finalement, donc, la fille, elle se retrouvait à l'hôpital. Donc, à travers justement les connaissances, elle a fait sa demande au niveau de l'hôpital de Diffa. Et c'est là-bas qu'elle a fait son stage. On doit imposer aux entreprises là de prendre. C'est des stages qui font partie de leur formation. Donc, l'État doit faire l'effort au niveau à ces établissements. On doit aussi accompagner les élèves à la sortie. Pour certains, ils ont vraiment besoin, après les diplômes, donc là, d'avoir un petit kit de démarrage. C'est bon donc de les soutenir. Pas seulement le kit, même s'il n'y a pas le kit, c'est-à-dire même pour certains travaux là, on peut privilégier ces sortants-là. Il faut aussi un suivi. Donc, dès qu'ils obtiennent leur diplôme, là, sur 1 ou 2 ans, là, on doit faire le suivi. On doit savoir, au bout de 6 mois, d'un an, de 2 ans, combien ont été recrutés, combien travaillent à leur compte ou dans des entreprises. On peut aussi leur offrir donc du travail. Et par exemple, dans nos écoles, il y a toujours des problèmes de réfection, de table-banc, là. Pourquoi on ne donnerait pas cela au niveau sortie. Puisque quelquefois, on vous demande une certaine expérience là pour vous recruter quelque part. C'est très difficile. Ou même les petits travaux au niveau des écoles, par exemple, construire par exemple certains murs de clôture des établissements primaires, secondaires et autres là, pourquoi on ne donnerait pas ça en priorité aux sortants? Comme ça, on les aiderait, donc ils vont faire le travail et on va aussi voir si c'est bien fait et autres là, c'est-à-dire ils vont avoir quelque chose. Et ça, c'est pas au niveau régional. Il faut déjà prendre par exemple un arrêté ou autre au niveau du ministère.
Monsieur Bassirou, comment faire en sorte que l'enseignement professionnel et technique contribue efficacement au développement du Niger?
L'État doit penser, je l'ai tout à l'heure dit, à initier la formation continue des formateurs, mais aussi des cadres, recruter un personnel qualifié pour enseigner. Mais aussi, il ne faut pas oublier de revoir les sujets qui sont donnés dans les pratiques lors des examens. Puisque souvent, la réalité des cours dans les centres ne répond pas avec celle des examens. Si vous regardez un peu partout, il y a des chantiers qui sont là en cours, qui est d'aller chercher des gens au Nigeria, à l'extérieur. Pourquoi ne pas utiliser ces jeunes-là, les tester et leur coller la tâche et essayer de les évaluer à travers ces actions.
Monsieur l'inspecteur, la même question, comment faire en sorte que l'enseignement professionnel et technique contribue efficacement au développement du Niger?
En ce qui concerne le sous-secteur de l'enseignement, la formation technique et professionnelle, l'État a beaucoup investi. Sauf que cet investissement n'a pas tenu compte de la base. Parce que pour qu'il y ait efficacité, il faut aller à la base. Que d'abord, l'enfant soit bien formé à la base. Ensuite, il suit son cursus. Deuxièmement, après la formation, ses sortants doivent être en stage. Le stage doit être obligatoire. Et après le stage, il doit avoir une certaine organisation des sortants. Ils doivent être organisés. Et c'est ça qui manque. Ça veut dire juste après leur stage, on peut les grouper en groupe d'entrepreneuriat, les diriger pour aller vers tel partenaire ou tel partenaire qui va vous accompagner. Voilà comment il faut ficeler un dossier. Troisième point, au niveau de la formation, les appareils doivent être modernisés. Donc il faut que les matériels que le formé va retrouver dans la vie active soient le même que celui qu'il a utilisé au cours de sa formation. Troisièmement, la gestion des effectifs. Je ne sais pas au niveau de l'université, mais nous avons un problème d'effectifs. La formation professionnelle, ce n'est pas de l'enseignement général. Chacun doit avoir sa paillasse pour la manipulation. Mais si autour d'un seul appareil, vous avez 5 apprenants, eh bien, qui va manipuler? Alors qu'on veut que chacun apprenne le métier. J'ai rencontré au cours d'un examen où pour une épreuve de cuisine, il y a 20 filles. 20 filles pour préparer un plat. Même si chacune doit prendre un bout de bois, l'autre va prendre la cuillère, il y a certaines qui n'auront pas. Donc il faut qu'on revoie l'évaluation. L'évaluation est la mère de la formation. Quatrièmement, nos jeunes sortants qui vont dans les stages, ils se retrouvent chez des maîtres artisans. On appelle maître artisan, par exemple, le chef de garage, qui lui n'a aucun diplôme et il doit évaluer un élève, il doit lui fournir une attestation, alors que lui, il ne l'a pas. Donc voilà le paradoxe que nous vivons. Et ça joue sur l'efficacité. Il faut que nos maîtres artisans, qui ont une certaine qualification, qu'on leur donne au moins une attestation de qualification. Ça leur permettra de se mettre en sécurité, ça leur permettra de mieux former, ça leur permettra d'être respectés par les élèves. L'autre point, ce sont les formateurs, comme l'a dit le syndicaliste. Vous trouvez des formateurs qui ont BPC plus 2 et qui enseignent des bacheliers. Comment voulez-vous qu'il y ait une certaine inefficacité?
Professeur, la même question, comment faire en sorte que l'enseignement professionnel et technique contribue efficacement au développement du Niger?
Moi, je vais aborder quelques questions Par exemple, la question de l'évaluation, ça pose problème. Je le vois au niveau du baccalauréat, où on met un groupe d'étudiants sur un appareil et on leur attribue la même note. Et souvent, c'est des notes exorbitantes. Et le gars se retrouve avec un bac mention, alors que même techniquement, il n'est pas fort. Ce qui fait que le bac technique et professionnel a tendance à devenir un bac au rabais. Moi, quand je préside un jury, je me retrouve avec 30, 37, 40%. Celui qui préside le jury du bac professionnel, il se retrouve avec 95%. Je ne sais pas comment expliquer ça. Et après, on me dit non, il n'y a même pas de matière d'œuvre, c'est un problème. Et nous, souvent, concernant la matière d'œuvre, on fait recours au LPANA avec notre département de topographie. Parce qu'on se retrouve avec un appareil théodolite, 8-6 étudiants. Nous avons ce problème de massification parce qu'on n'a pas les appareils et le personnel. Par exemple, depuis 3 ans, j'ai demandé 11 enseignants. J'ai eu à recruter seulement 3. Et de l'autre côté, nos effectifs ne font que grimper. Deuxièmement, il y a le personnel. Le système est déjà là. Il y a des gens qui sont rentrés dedans. Ils ne sont même pas de la formation professionnelle. Mais ces gens-là, il faut les reconvertir. Il faut le renforcement de capacités, des stages d'immersion. Il faut les envoyer en Turquie. Il faut les envoyer en Chine pour apprendre avec les autres et venir. Ce n'est pas venir les critiquer. Et il y a aussi le fait que ça, c'est général. C'est que j'ai l'impression qu'au Niger, les gens vont à l'école pour obtenir un diplôme et non pas une compétence. Or, l'enfant qui est compétent, diplôme ou sans diplôme, comme il l'a dit, tu vas manger. Mais nous avons des gens qui ont des diplômes, même dans le domaine professionnel, technique, qui n'arrivent pas à s'en sortir sur le marché. Je ne sais pas si votre personnel jouit d'un statut pour qu'il y ait leur statut. Nous, les UIT, la première bataille que nous avons eu à faire, c'est le statut de l'enseignant technologue. Vous ne pouvez pas décider au niveau du ministère du jour au lendemain ce que vous allez faire de nous, non? Il y a la question de la corruption. Parce que souvent, la matière d'œuvre, nous avons des gens qui nous amènent ça. Et qui, depuis Niamey déjà, une partie est prise. Et c'est un secteur, quand je discute avec les cadres du secteur, où jusqu'à récemment, j'allais dire jusqu'à avant le 26 juillet, les cadres quand même parlaient de la politisation, l'influence des politiques. Quand tu veux prendre une décision au niveau régional, même dans la gestion, il y a l'influence Niamey qui intervient dessus. Et je ne reviens pas sur ce que le directeur a dit, par exemple, concernant certaines disciplines, le français, les mathématiques, pour ceux qui font le lycée, parce qu'ils vont venir à l'université, demain, ils seront des ingénieurs. Et à l'université, si tu ne maîtrises pas le français, les mathématiques, les physiques et autres, là, c'est normal que tu abandonnes dès les premiers semestres.
D'accord. Merci, professeur, et merci à tous les invités. On retient que le Niger dispose présentement de 13 lycées professionnels. Il y a un collège de formation au métier. Dans chaque commune, dans chaque département, il y a un collège d'enseignement technique. Donc, l'augmentation de la population et les besoins pour l'emploi expliquent l'institutionnalisation du sous-secteur de l'enseignement professionnel et technique. L'enseignement technique a véritablement décollé et les produits issus sont dans plusieurs domaines. Les disciplines sont diversifiées et certaines sont même étouffées et donc n'apportent pas du travail. La révision du curricula est donc nécessaire ainsi que l'assurance qualité. Les élèves négligent les matières d'enseignement général. Or, pour prétendre aux études supérieures, ils ont besoin d'une certaine maîtrise de la langue d'enseignement. Les inspections du ministère sont nécessaires pour promouvoir la qualité. Les filières porteuses sont définies par la politique du gouvernement. Le problème de continuité pour les étudiants sortis des lycées professionnels est un obstacle, tout comme le problème de cadre en qualité et en quantité pour l'enseignement. Les élèves de l'enseignement professionnel et technique, malgré les railleries, réussissent dans leur formation et dans la vie professionnelle. Cependant, ces élèves sortis des établissements professionnels et techniques doivent être aidés à travers le contrat de l'État selon leurs compétences. Nous étions avec M. Adamou Abdoulaye, maître de conférence, directeur de l'Institut universitaire de technologie de Zender, M. Sani Gana, inspecteur régional de l'enseignement professionnel et technique de Zender, M. Mustapha Liman Tingiri, planificateur de l'éducation à la retraite, et enfin Bassirou Ousseni, secrétaire général du syndicat national des enseignants de la promotion professionnelle et technique et coordinateur du concept. Merci et au revoir.